franceinter.fr.
Il est 8h30. Voici la revue de presse. Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Patrick.
Votre enfant est-il pollué ?
Arnaud, dites-moi, vous avez un chat chez vous, non ? Oui, en effet. Mais comment diable Brice Appenzeller, le directeur d'un laboratoire de recherche publique luxembourgeois, sait-il qu'il... alors qu'il n'a jamais mis les pieds chez moi, se demande un journaliste de l'Obs. Le chercheur montre un tableau sur son ordinateur. Regardez ce que l'on trouve chez votre fils. Du fipronil, un antipuce prescrit par les vétérinaires. Accessoirement, c'est un perturbateur endocrinien qui s'attaque à la thyroïde. L'enquête dévoilée par l'Obs a été commandée cet été par l'hebdomadaire. Des cheveux ont donc été prélevés sur 63 enfants de moins de 12 ans, dont des enfants des journalistes de l'Obs. Et le résultat, eh bien, tous ces enfants sont pollués, sans exception, qu'ils habitent la ville ou la campagne. Dans leurs cheveux, on retrouve des herbicides, des insecticides. Certains sont interdits depuis des décennies d'ailleurs. Quand l'Obs a présenté ses conclusions aux parents qui ont prêté leurs enfants, les réactions ont été sans appel. Une mère a fondu en larmes, elle a appelé son compagnon. On devrait manger bio, tu vois, on bouffe n'importe quoi à cause de toi. Alors pourquoi nos enfants sont donc si-ils pollués ? Parce qu'ils marchent à quatre pattes, qu'ils mettent les mains à la bouche. Quand on sait que les perturbateurs endocriniens agissent sur la croissance des enfants, qu'ils peuvent y avoir aussi des conséquences sur le poids, la sexualité, le QI, oui, l'étude a de quoi faire peur. On devrait donc supprimer les perturbateurs endocriniens. Pas simple, regrette Michel Rivasi, eurodéputé écologiste, qui pointe le poids des lobbies industriels. Trop d'intérêts économiques sont en jeu au niveau européen.
Des enfants pollués aussi au Liban.
Des enfants qui sont de plus en plus souvent malades. La faute à la crise des déchets qui dure depuis maintenant 3 mois dans la banlieue de Beyrouth. Laure Stéphane du Monde décrit les rats, la puanteur et les odeurs suffocantes. Mairie, politique, chacun se renvoie la balle. Mais les déchets, eux, ne bougent pas. Alors des habitants ont décidé de se débrouiller seuls. Rita a décidé de faire appel à des éboueurs improvisés qu'elle paye 10 dollars par mois. Tout le monde fait ça ici, des Égyptiens, des Syriens collectent les poubelles à domicile. Mais où vont ensuite ces déchets ? Nul ne le sait. Cela revient à mettre les ordures sous le paillasson, dénonce une ONG. Et c'est à peu près la même chose que l'on peut voir à Djerba aujourd'hui en Tunisie. Dossier paru cette semaine sur le site Bastamag. Une odeur irrespirable, là encore, qui vous prend à la gorge. Des montagnes de déchets à perte de vue à quelques mètres seulement de la mer. Cette décharge à ciel ouvert de l'île de Djerba s'étend sur une superficie équivalente à plusieurs terrains de football. Ces déchets viennent en partie des grands hôtels internationaux qui se dressent le long de la côte à 5 minutes seulement en voiture de la décharge. Sauf que là, des entreprises se partagent le marché des déchets, dont une filiale de Suez Environnement. Problème, elles en tirent une manne juteuse en privilégiant l'enfouissement plutôt que la valorisation.
Polluantes aussi les voitures qui roulent au diesel.
Le scandale Volkswagen n'aura-t-il servi à rien ? Question du Parisien aujourd'hui en France ce matin. La Commission européenne a relevé hier les seuils d'émissions d'oxyde d'azote que doivent respecter les constructeurs. Introduire des tests plus fiables sur le papier, l'intention est bonne, mais le seuil d'émission de gaz polluant ne pourra être atteint que dans plusieurs années. Le temps en fait que les constructeurs automobiles s'adaptent, relèvent les échos. Alors seuls les nouveaux modèles y seront soumis dès 2017. En clair, résume le Parisien aujourd'hui en France, Bruxelles autorise les véhicules roulant au diesel à polluer encore plus aujourd'hui. Cela étant dit, ça n'empêchera pas les voleurs de voitures d'agir. Le quotidien, le Parisien aujourd'hui en France et les dernières nouvelles d'Alsace publient ce matin le baromètre de 40 millions d'automobilistes, baromètre des véhicules les plus volés en France. 110 000 chaque année. Les citadines Smart Fortwo et Ford Fiesta sont les plus prisées des voleurs parce que plus vulnérables, paraît-il. C'est aussi un vrai marché à la revente entière ou désossée.
Quoi d'autre dans la presse, Laetitia, ce matin ?
Des histoires de migrants au lendemain de l'annonce de l'Autriche viennent envisage à son tour d'installer des barrières à ses frontières. Un éditorialiste de Die Welt déplore ce matin une forme de renationalisation de l'Europe. Pire, relevé cette fois dans l'UMA et le Soir de Belgique. Le ministre de l'Intérieur belge du parti nationaliste flamand NVA veut doter les réfugiés d'un badge. Indigne, a répondu Paul Magnette, ministre-président wallon. S'ils doivent porter un badge, alors j'en porterai un. En France, la Croix pointe de son côté ce matin du doigt ces enfants réfugiés qui ont fui seuls leur pays à la demande d'un père, par exemple. Il faut les aider. Illustration avec l'histoire d'Armando Curie, un Albanais de 19 ans. Il a été invité par le Sénat pour recevoir la médaille d'or du meilleur apprenti menuisier de France en mars dernier. Il était mineur à son arrivée en France. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais une fois majeur, l'aide a cessé de facto et il est redevenu clandestin. Cette situation est loin d'être marginale.
Dans un autre registre sur la touche aussi, Ramayad.
L'ancienne étoile montante de la droite est aujourd'hui persona non grata au Parti radical, mais aussi chez les Républicains. L'Opinion raconte l'entrevue avec Valérie Pécresse début septembre. L'ex-secrétaire d'État a demandé rendez-vous à la tête de liste Les Républicains pour les régionales en Ile-de-France. Elle est encore conseillère, elle voudrait donc...
Ouais.
Les régionales, oui, j'ai dit.
Oui, conseillère régionale. Ouais.
Elle est conseillère régionale encore en Ile-de-France, elle voudrait être candidate en décembre. Dans la pièce, l'ambiance est lourde. « Cela te dérange si j'enregistre la conversation ?» demande Pécresse. « Ma mère a pleuré en lisant ton livre. » Valérie reproche à Rama ses propos tenus dans Carnet de pouvoir. Lors de la précédente campagne, Pécresse voulait envoyer Yad dans le Val-d'Oise sous prétexte qu'il y avait plein d'Africains là-bas. À la sortie de la rencontre, Patrick Stefanini racontera n'avoir jamais assisté à une discussion aussi franche, même entre deux hommes. Ramayad, elle, est en train de comprendre qu'elle n'a plus de valeur marchande.
Gilles Pélisson, lui, est attendu à TF1.
Attendu au tournant, ce Bouygues Boy va remplacer Nonce Paolini. Dans Libération, certains assurent qu'il devra mettre le turbo sur la production et l'offre de programmes. Car TF1 n'est pas endetté, mais pour suivre l'Europe des médias, il faut faire jeu égal, selon le Figaro, avec les grands groupes britanniques ou encore allemands. Le Huffington Post et les Échos dressent la liste des défis à relever. Et à sa manière, Delphine Ernot, la présidente du groupe France Télévisions, lui donne de la matière dans le Figaro. France Télévisions va, dit-elle, lancer le Google de la création française. C'est un modèle économique de demain, c'est d'ailleurs le modèle. On ne peut plus se contenter des recettes publicitaires. Sans publicité, une dernière information ce matin dans la presse. L'anniversaire de la disparition de Ben Barka. C'était le 29 octobre 1965, rappelle l'UMA. Le leader de l'opposition marocaine est tombé dans un traquenard ce jour-là. Traquenard tendu par les services secrets marocains, aidé par des policiers et des bandits français. Le Parisien aujourd'hui en France s'est rendu dans la maison de Fontenelle-Vicomte où Ben Barka a été séquestré. Les propriétaires, quand ils l'ont acheté, ne connaissaient pas son histoire. Mais la maison continue de susciter la curiosité 50 ans après. Un rassemblement est prévu ce soir à Paris devant la brasserie Lip où a été enlevé Ben Barka.
Merci Laetitia Gaillet pour la revue de presse. Dans un quart d'heure, votre billet comme chaque jeudi. Bonjour Vincent De Dienne.
Bonjour Patrick Cohen.
Alors,
selon un sondage TNS moi-même, vous êtes l'homme le plus élégant d'Europe de l'Ouest. Et moi, je sais pourquoi.
Très peur.
Non.
Dans un instant, retour de notre invité, le général Vincent Desportes et son cri d'alarme sur une armée, dit-il, au bord de la rupture.